Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, je m'inspire pour cette série d'émissions sur la culture générale de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru il y a une vingtaine d'années à Paris chez Ellipse. Et de ce livre sortira bientôt une version numérique ou électronique, je vous en informerai en temps voulu. Donc, nous avons réfléchi sur la notion de construction symbolique et nous avons vu que la culture humaine, justement, était faite de remplacement du monde pulsionnel, du monde immédiat, hein, du monde instinctif, par des mythes, des fictions que j'ai appelées des constructions symboliques. Le deuxième chapitre de mon livre étudie le destin des constructions symboliques. Que deviennent-elles? Eh bien, elles sont d'abord objet d'une adhésion affective, le cœur justement les construit, hein, et ensuite la raison, la réflexion les réexamine et cela peut aboutir à leur fragilisation, voire à leur destruction. Dans la dernière émission, j'ai parlé du séisme causé dans la culture occidentale par le mouvement de la réforme, hein, qui est une sorte de désymbolisation et un processus justement extrêmement complexe avec des côtés positifs, hein, puisque la foi s'est intériorisée, mais aussi avec des côtés négatifs qui est la destruction, dont le principal est la destruction de l'aveuglement, de la foi naïve, si vous voulez, et des dispositifs qui l'épaulaient, vous voyez. Alors, analysons maintenant ce qu'il en est du relativisme au XVIe siècle occidental, donc à partir de ce grand séisme réformé. Beaucoup de constructions symboliques, élaborées, complexes, qui avaient jusque-là permis à l'homme de vivre en justifiant pour beaucoup les frustrations qu'il s'imposait, sont, à partir du XVIe siècle, sont apparues comme simplement humaines, comme des créations de l'homme, comme relatives à lui. Et en cela, le séisme protestant peut être vu comme inaugurant objectivement dans la culture occidentale, même si telle n'était pas son intention initiale, l'ère du relativisme. C'est, je dirais, l'a priori historique du relativisme moderne. Alors on pourrait citer l'œuvre de Rabelais, qui est le maître du grand peut-être, selon l'expression de Balzac. La Renaissance est essentiellement l'esprit de libre examen, hein. Le sens de toute chose, c'est la réponse de l'homme ou la responsabilité de l'homme, comme il se voit par exemple dans le quart livre de Rabelais. On y lit la chose suivante, « La dive bouteille vous y renvoie, soyez vous-même l'interprète de votre propre entreprise ». Eh bien, c'est tout à fait l'idée de Luther, justement, d'une réflexion personnelle individuelle sur l'héritage que l'on a reçu. Mais le héros de l'intelligence dissolvante et triomphante au XVIe siècle, c'est à tous égards, à mon avis, Montaigne. Et sans doute la position du catholique Montaigne est-elle incompréhensible sans le bouleversement de la réforme protestante, vous voyez. Montaigne, c'est, comme le disait Elifort, le père du doute européen. Alors il attire l'attention de l'homme d'Occident sur la relativité de ses coutumes et donc la fragilité en général de sa culture. Voici ce qu'il dit, « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes périgourdins ou allemands », vous voyez. Ou bien alors, à propos des cannibales, hein, « Je trouve qu'il n'y a rien de barbare en cette nation, sinon que chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage ». C'est déjà ce que dira Lévi-Strauss bien plus tard, « Le barbare est celui qui croit à la barbarie », vous voyez. Reprenons le cas de ces cannibales de Montaigne. Ils trouvent anormal que des hommes forts et armés qui portent la barbe, c'est-à-dire les Suisses de la garde du roi, se soumettent à obéir à un enfant. Hein. Donc évidemment, la signification symbolique de cette soumission leur échappe. Ces cannibales ne savent pas ce que nous savons, nous, avec nos yeux de moderne, que le respect ou la soumission sont affaires d'intériorisation ou d'intégration mentale. Ces cannibales en sont encore au stade de la simple nature, où la symbolique et l'acceptation de l'inégalité des échanges n'existent pas. Les signes fonctionnels n'ont pas chez eux de pertinence. Vous voyez, l'uniforme, le décorum ne leur parle pas. Alors il y a évidemment, dans l'utilisation par Montaigne de cet exemple des cannibales, un but polémique évident. Il s'agit de démontrer, par comparaison et confrontation, l'absurde de certaines coutumes de l'Occident, l'hiatus qu'il y a entre les principes affirmés et la réalité. Par exemple, ces cannibales ne comprennent pas que les hommes d'Occident continuent d'appeler chrétiennement les hommes tous égaux et frères et d'accepter entre eux de si grandes disparités de richesses. Ils ne comprennent pas que les pauvres ne prennent pas les riches à la gorge et ne mettent pas le feu à leur maison. Mais par-delà la critique même, l'orientation générale de la pensée ici, cette ouverture de l'intelligence par affectation d'une fausse naïveté, contient déjà en germe un principe dissolvant ou mortifère pour les constructions symboliques. Vous voyez ? Alors venons-en maintenant au XVIIe siècle. Pascal disait « Il est dangereux de dire au peuple que les lois sont injustes car il les croit justes ». Et il n'a rien fait d'autre justement que de le dire, puisque il dit « Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Pascal ne fait que développer Montaigne. Alors bien sûr, pour lui, la relativité générale affirmée des coutumes humaines vient se briser devant la vérité religieuse. La réflexion rationnelle est utilisée pour soutenir et fortifier, par l'inadmissible où elle conduit, le mythe religieux. Si la justice existait, l'homme serait dans une situation ferme et solide, ce qui n'est pas le cas. Le but de Pascal, c'est de faire comprendre par la faiblesse de l'homme, incapable de valeurs universelles, et de prouver la nécessité pour lui de se rattacher à Dieu. Alors vient le moment tout de même de la défaite de l'intelligence, de ce qu'on appelle le sacrificium intellectus, hein. Il faut s'abêtir, prenez de l'eau bénite, cela vous fera croire, etc. Pour être maintenu, le symbole religieux d'autrefois, il n'appelle plus le secours de la raison, il se détourne de la raison comme de sa plus grande ennemie. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et Pascal choisit le crede ut intelligas, c'est-à-dire croit pour comprendre, contre le intelligé ou credas, comprend pour croire, voyez. La foi ne cherche plus l'éclairement de la raison, on disait autrefois fides coherens intellectum. Elle se sépare de la raison, en fait, la raison grandit et la foi va vaciller. Hein. Une foi qui s'isole comme cela se sent menacée et elle se révèle à elle-même comme problématique. Voyez, cet isolement du religieux, c'est la leçon du siècle de Descartes. C'est un siècle laïque ou en voie de laïcisation, en général bien sûr, par réaction sûrement contre les excès de guerres de religion du XVIe siècle, vous voyez. Alors qu'au XIIIe siècle, à cette grande époque des cathédrales, eh bien le thomisme affirmait que l'intelligence pouvait contribuer à étayer la foi. Hein. Mais non, à partir de Pascal, comme on vient de le voir, la foi a ses propres raisons, hein, le cœur a ses raisons, la raison les ignore. Venons-en maintenant au XVIIIe siècle, au siècle suivant, hein, le siècle des Lumières, où très vite les usages et les coutumes et les mythes qui les sous-tendent, qui sont constitutifs et fondateurs de la culture occidentale, apparaîtront comme des mystifications, vous voyez. Au XVIIIe siècle, et là le destin des constructions symboliques s'accomplit, la désymbolisation va être totale, au XVIIIe siècle on assiste à une démolition systématique des constructions symboliques, au nom du rationnel ou du raisonnable d'une part, du naturel et de la nature d'autre part. Comment peut-on être persan, voyez ? Alors la phrase de Montesquieu va forcer l'Européen à s'interroger sur lui-même, sur ses croyances, sur ses valeurs, éventuellement sur sa crédulité. Le pape, dit le persan dans les lettres persanes de Montesquieu, abuse le peuple en lui faisant croire que trois ne font qu'un. Il s'agit du mystère de la Trinité. Que le pain qu'on mange n'est pas du pain, que le vin qu'on boit n'est pas du vin, le mystère de la transsubstantiation, etc. Vous voyez, lors de la dernière émission, nous avons parlé de ce problème de l'Eucharistie. Comment faut-il comprendre la présence réelle? Eh bien là, le persan n'y comprend rien du tout, hein. Sous le regard du persan, une chose n'est que ce qu'elle est. Elle ne veut pas dire autre chose qu'elle-même. Le pain, c'est le pain, le vin, c'est du vin, hein, voilà, pas autre chose. La valeur allégorique ou symbolique de l'Eucharistie n'est plus perçue, hein. Allégorique, ça veut dire allo-agorein, ça veut dire qui dire autre chose, hein. Donc le pape a un regard simplement tautologique, hein. Le persan a un regard tautologique sur les choses, hein, un regard détaché qui ne saisit pas la signification originaire et intrinsèque des choses, qui les voit de l'extérieur et qui ne voit que du littéral, hein. Alors imaginons par exemple un sauvage assistant à une messe. Il dirait quelque chose comme ce que dit Sartre dans La Nausée. Tous les matins, à la même heure, un homme seul boit du vin devant des femmes à genoux. Voilà, hein. Le sauvage se situe avant la signification, et le moderne, qui est faussement naïf, se situe après la signification, celle-ci ayant été perdue ou n'étant plus perçue. Mais le résultat est le même, il y a un retrait du sens de la signification symbolique des choses, vous voyez. Imaginons un Iroquois, un Huron, un aborigène d'Australie, ou même un petit enfant qui assisterait à un match quelconque, ou à une course cycliste. Qu'est-ce qu'il comprendrait? Qu'est-ce qu'il verrait? Il dirait pour le match qu'on donne un ballon à chacun de ses joueurs pour qu'ils cessent de se disputer. Pour la course cycliste, il dirait pourquoi ou pour qui ou qui ce cycliste fuit-il, hein? Si l'enfant voyait une vierge aux mains jointes, il dirait « Attention, elle va plonger ». Voyez, s'il voyait le pape, je reviens au pape qui m'obsède dans cette émission, s'il le voyait en grand costume avec sa mitre, il dirait « L'enfant, d'où vient ce bonnet d'âne ?» Voyez, s'il voyait un Saint-Sébastien percé de flèches, il dirait « Où sont les Indiens ?» etc., etc. Vous voyez, dans tout sport et dans tout jeu, il y a des règles. La culture aujourd'hui est souvent ridiculisée parce qu'elle apparaît comme un jeu sans règles. Lorsque le Huron de Voltaire dans L'Ingénu veut se faire baptiser par immersion complète, ou lorsqu'il veut s'unir sur le champ à sa belle en comprenant à sa façon le mot « épouser », il a sûrement un comportement plus simple, plus littéral, plus naturel. Mais c'est la mort d'une culture, au sens où les anciens symboles ne sont plus perçus. Pareillement, le Huron, ayant lu dans le texte sacré que les hommes doivent se confesser les uns aux autres, il veut à son tour confesser le prêtre à qui il vient de se confesser, vous voyez? Alors, qui ne voit que ce regard vierge non prévenu sur les textes, c'est celui-là même des protestants, vous voyez, hein? Le roi de France, dit de même le persan de Montesquieu, est un grand magicien. Il peut battre monnaie comme il le veut, il peut créer des richesses factices, hors de proportion avec tout réel. Voici ce qu'on voit dans la lettre 24 des lettres persanes. Le roi de France, il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets, il les fait penser comme il veut, s'il n'a qu'un million d'écus d'or dans son trésor et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux et il le croit. S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'a point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier et de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Voyez. Donc ce qui est critiqué ici, c'est l'idée de confiance, qui est pourtant indispensable pour qu'une pratique symbolique subsiste. Il y a crise ici de la fiducia, c'est un mot latin dont j'ai déjà parlé, qui veut dire la confiance. Crise du fiduciaire, comme disait Valéry. Alors, l'économie ici n'est qu'un prétexte, hein. La réflexion va beaucoup plus loin. L'intelligence logique, par laquelle se définit tout le XVIIIe siècle, l'époque des Lumières va ruiner cette confiance en montrant qu'elle est absurde. Voilà. Alors, sur ces problèmes concernant le littéralisme et la symbolie, c'est-à-dire l'incapacité de voir des symboles, je dirais la chose suivante. Il y a des esprits qui voient des symboles partout et qui sont, comme on pourrait dire, frappés d'hypersymbolie. Mais il y en a d'autres qui n'en voient nulle part et ceux-là sont atteints d'asymbolie. Alors, la symbolie peut signifier plusieurs choses. Soit la méconnaissance simple de la signification, dans le cas où on appartient à une autre culture. Soit l'oubli involontaire de la signification dans le cas de la déculturation. Soit l'oubli volontaire de la signification dans le cas d'une intention polémique et de démystification. Alors beaucoup d'humoristes feignent la naïveté pour dénoncer l'absurde de ce qu'ils décrivent. L'humour consiste à rendre compte des choses hors de leur signification, avec un regard détaché. Alors la pratique culturelle apparaît bizarre et étrange. Et dès lors, la culture est sapée, minée de l'intérieur par la distance du regard. Mais plus précisément, il faudrait sans doute ici distinguer humour et ironie. Quand on se moque de quelque chose que l'on aime, le résultat c'est l'humour. Et quand on se moque de quelque chose que l'on n'aime pas, le résultat est l'ironie. L'humour implique une connivence, au fond, une fraternité et aussi une tendresse avec ce qui est critiqué. Mais l'ironie est franchement hostile à ce qu'elle évoque, elle est dépréciative et elle est rabaissante. Au fond, une culture n'est fragilisée que par l'humour, et encore, je n'en suis pas sûr, mais elle est percée au cœur par l'ironie. Le regard que le XVIIIe siècle a porté sur sa propre culture est très souvent ironique. Alors on a dit déjà, j'en ai parlé lors de la dernière émission, que l'Eucharistie chrétienne était symboliquement une manducation sacrée. Et c'est aussi du vampirisme, puisqu'il s'agit de boire du sang, vous voyez. Par parenthèse, il est peu probable que Jésus lui-même ait pu dire « buvez ceci et mon sang », puisque en monde juif, il est absolument interdit de consommer du sang. Voilà, je referme la parenthèse. Alors voici maintenant un exemple de regard tautologique ou littéral, de regard asymbolique volontairement, qui réduit l'Eucharistie à l'anthropophagie. « Non, je ne serai jamais leur homme, puisque leur homme est un roseau pensant. Non, jamais je ne deviendrai cette plante carnivore qui tue son Dieu et le dévore et vous invite à déjeuner et puis, si vous refusez, vous accuse de manger du curé. » Il s'agit d'un poème de Prévert qui s'appelle « L'enfant de mon vivant » dans le recueil « La pluie et le beau temps ». Donc je dirais qu'il y a un littéralisme dans l'ordre de la croyance qui est une stupidité. Ainsi, l'interprétation de chiffres manifestement symboliques de la Bible par certains, comme les témoins de Jéhovah, par exemple. De même, dans le Tao Te King, par exemple, on nous parle des 10 000 lettres, mais ces 10 000 lettres ne sont pas 10 000, mais l'ensemble des choses existantes. Mais il y a un littéralisme dans la critique des croyances qui ne vaut guère mieux. Hein. Le second littéralisme est d'ailleurs très souvent appelé par le premier. Et à l'inverse de ce que croit le rationalisme moderne, il n'est pas sûr qu'il soit toujours beaucoup plus profond. D'ailleurs, je crois que Voltaire disait lui-même « Je suis comme les petits ruisseaux, je ne suis clair que parce que je ne suis pas profond », vous voyez. Donc, à partir du XVIIIe siècle, on accuse les constructions symboliques en leur disant qu'elles manipulent les hommes. Il y a un soupçon de manipulation. Hein. Ce siècle a confronté les croyances et les faits, et il a critiqué les croyances par les faits. Or, une culture jusque-là avait toujours ordonné les faits au moyen des croyances. Les hommes du XVIIIe siècle ont pensé que l'irrationnel même des productions culturelles visait à les infantiliser et à les manipuler et les disqualifier. Et cette idée est centrale, par exemple, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet. Alors, les religions, par exemple, s'appuyaient, au moins dans leur variété populaire, sur des miracles, sur une thaumaturgie. Et Fontenelle en a fait justice dans son histoire des oracles. L'histoire de la dent d'or qui est venue à un enfant à des fins édifiantes s'avère être une supercherie puisque la dent n'était pas un or mais simplement une supercherie au moyen de laquelle on a fait croire à un miracle. Hein. C'est pour ça que Fontenelle nous dit « Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. » Vous voyez ? Et Montesquieu, de la même façon, se moque par la bouche du persan de la prétention des rois de France à guérir les écrouelles par simple attouchement. Voici ce que Montesquieu écrit. Le persan hein, écrit, dit, « Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. » Alors ce siècle a confondu croyance et crédulité. Il ne s'est pas demandé ce que signifie psychologiquement la croyance au miracle ou le besoin de merveilleux. Ce siècle est précurseur du positivisme qui consommera au XIXe siècle la ruine des constructions symboliques au nom du triomphe des faits. Hein. Voyez ce que dit Voltaire dans Oedipe, hein, « Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, notre crédulité fait toute leur science », vous voyez. Donc, la manipulation, justement, de l'Église sur les esprits, hein, a été l'objet de la part de Voltaire d'une constante lutte. « Écrasons l'infâme », disait-il à propos de la religion. Hein. Alors, je prends un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Si l'on parle des soucoupes volantes ou des ovnis, je peux soit y croire de façon crédule, soit ne pas y croire et en rire de façon positiviste. Soit, et c'est la troisième voie qui me semble la plus intelligente, me demander ce que veut dire cette croyance, à quel besoin psychologique elle correspond. Et cette dernière attitude n'est pas la plus sotte. C'est par exemple celle qu'a adoptée Carl Gustav Jung dans un livre intéressant qui s'appelle « Un mythe moderne » sur les soucoupes volantes. Jung ne se pose pas la question de savoir si les soucoupes volantes existent ou pas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est pourquoi la psyché humaine a besoin d'aller chercher justement ce mythe, cette fiction, pour se rassurer éventuellement ou bien se faire peur, je ne sais pas. Enfin, tout dépend de la façon dont on interprète le phénomène. Mais il ne faut pas ridiculiser justement ces choses-là au prétexte qu'elles n'ont aucun contenu factuel. Et malheureusement, le XVIIIe siècle n'a pas favorisé cette attitude, et le soupçon de manipulation a couru tout au long des deux siècles suivants dans la culture occidentale. On nous manipule, on nous manipule. Par exemple, l'Évangile nous dit « Si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue ». Mais Nietzsche dira « C'est parce qu'on te frappe sur la joue que tu tends l'autre joue. Toute action pour toi se réduit à une réaction. Tu es un faible qui ne peut se défendre. » Et Marx dira « Tu n'oses pas te révolter contre ce qui t'aliène. » Et Freud dira « tu te complais dans ta névrose ». Ainsi, Nietzsche, Marx, Freud, voici trois maîtres du soupçon. De la généalogie de la morale à l'avenir d'une illusion, la construction chrétienne apparaît comme un dispositif manipulateur, un dispositif de mauvaise foi, destiné à masquer notre impuissance ou notre manque d'énergie vitale, notre dépendance économique, notre immaturité psychologique. Haine et ressentiment, Nietzsche, opium du peuple, Marx, névrose obsessionnelle de l'humanité, Freud. On ne s'est pas demandé ce que signifiait cette construction, signifiait, mais ce qu'elle dévoilait, hein, ce qu'elle trahissait, vous voyez. Et à la base de toutes ces réductions, il y a toujours un aplatissement du symbolisme, une tendance à la pure objectivité et au regard littéral. C'est toujours le cas du réductionnisme, de l'orientation réductionniste de l'esprit. On pourra faire un sort particulier ici à Nietzsche, qui est le champion de la destruction des arrière-mondes consolants, qui euphémise et qui anesthésie la vie. La maladie consistant à moraliser en toute occasion, Nietzsche l'a appelée la moraline, et elle était responsable, selon lui, de la psychasthénie chronique de l'homme occidental. Tel était pour lui le sens de tout idéal ascétique, pour reprendre le titre d'un chapitre de sa généalogie de la morale. Et ce fut cela pour lui philosopher à coups de marteau. En un sens, c'est bien la revanche de la nature sur la culture. Et de la même façon, la loi morale, qui encore chez Rousseau était un instinct divin dans la profession de foi du vicaire savoyard, encore égale en grandeur au ciel étoilé chez Kant, hein, au siècle suivant, elle deviendra la voie de la société chez Durkheim. Voilà, eh bien nous continuerons dans l'émission prochaine les étapes de la désymbolisation en Occident. Hein. Je préfère dire que ces étapes-là, doivent être connues, bien sûr, mais elles sont ambiguës, problématiques. Hein. Il ne s'agit pas du tout, pour moi, hein, c'est même le contraire, de détruire les symboles, pas du tout, mais de les revisiter. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission pour continuer cette enquête.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.